merci de m'accueillir et d'accueillir ainsi une délégation du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France. Monsieur l'Admiral, merci pour cet exposé. Vous verrez qu'il y a quand même des voies convergentes dans les analyses. Alors, je pense qu'il faut, vous l'avez fait, rappeler ce qu'est la laïcité et ce qu'elle n'est pas. La laïcité, ce n'est pas la religion civile de l'État. La laïcité, ce n'est pas l'athéisme. La laïcité, ce n'est pas le discours interreligieux. Le discours interreligieux est louable, souhaitable, mais, et en effet, en combattant l'ignorance, il combat l'une des raisons du vice, du ressentiment, de la violence qui peut être générée par l'appréhension plus ou moins diffuse que certaines religions seraient plus violentes ou moins tolérante que d'autres. Et d'ailleurs, vous avez, j'y reviendrai en conclusion, montré l'aspect contradictoire qu'il y aurait entre la laïcité, la défense de la laïcité et le discours interreligieux, notamment dans le cadre particulier de la radicalisation. Donc, pas de religion civile de l'État, ce n'est pas l'athéisme, ce n'est pas l'anti-religion non plus, puisque cela garantit justement la coexistence pacifique des croyants, des agnostiques et des non-croyants. Ce n'est pas le discours religieux, ce n'est pas une philosophie ou une conviction, en tout cas dans le contexte français, qui serait révocable par toute autre philosophie et toute autre conviction. Ce n'est pas la tolérance, car la tolérance, c'est un statu quo entre des positions dont certaines sont prééminentes et condescend à vivre avec les autres, et comme vous l'avez rappelé, c'est un principe constitutionnel et juridique de neutralisation confessionnelle de l'État et de neutralisation corrélative politique des religions. C'est donc la possibilité pour l'État de se dissocier de toute tutelle religieuse quant à sa légitimation et quant à ses objectifs. Et c'est une émancipation de la tutelle de l'État pour les religions qui demeurent indépendantes dans leurs dogmes et leurs pratiques du moment qu'elles restent dans le champ limité par la loi de l'ordre public. Et donc cela permet en effet de dégager deux espaces. La sphère publique, astreinte à la stricte neutralité religieuse, puisque l'État représente l'unité de la nation, il ne saurait afficher un quelconque symbole d'une communauté particulière. Et corrélativement, la sphère privée, plus large, qui, elle, a la liberté de croire, de ne pas croire, et la liberté d'une certaine visibilité sous les limites de la loi, que ce soit au travail ou que ce soit dans la stricte sphère privée, qui n'est pas... Cette sphère privée, effectivement, ce n'est pas la sphère du domicile, ce n'est pas la sphère de l'intimité, la rue, ou même une administration, lorsqu'on est usager du service public, nous ne sommes pas astreints, comme les représentants de l'État, à cette stricte neutralité religieuse. Donc, voyez, ce que permet la laïcité, c'est de construire un espace de délibération commune où tout le monde, tous les citoyens et toutes les citoyennes, librement, à égalité, participent, et c'est ce qui fait la différence avec la tolérance, à une construction commune, sans que quiconque puisse se prévaloir au nom d'une transcendance, d'une religion quelle qu'elle soit, d'une prééminence sur l'autre. Et c'est pour cela que la laïcité est beaucoup plus forte que la tolérance. C'est parce que c'est l'idée qu'il y a un bien commun que nous pouvons élaborer ensemble en nous auto-instituant comme ceux qui se donnent à lui-même les lois. C'est ça la laïcité. Mais cette laïcité trouve un certain nombre de problèmes. C'est là que nous allons revenir au débat antérieur. Premièrement, aujourd'hui, la laïcité est dévoyée par l'extrême droite. Bon. Cette laïcité identitaire n'est pas la laïcité émancipatrice, la laïcité intégratrice qu'elle est à l'origine. Donc, il faut dans un premier temps réaffirmer que la laïcité instrumentalisée par l'extrême droite est en vérité une manière déguisée de dire son racisme, en particulier à l'égard de l'islam et à l'égard des musulmans. Deuxième problème, c'est que l'État français, avec sa tendance gallicane, pour pouvoir justement contrôler la formation, les financements et le dogme, crée de pseudo-représentations à travers un discours communautarisant dont le CSM était en 2003, date de sa constitution, je crois, l'une des illustrations, puisque le CFCM ne représentait que lui-même, et en particulier l'UOIF, proche des frères musulmans, donc la branche la moins démocratique de l'islam politique, le Taglib, et des mosquées internationales. Donc l'État veut toujours se pourvoir de représentants de communautés particulières, et créer de pseudo-représentants qui ne représentent qu'eux-mêmes, et adopte un discours communautarisant, puisqu'il s'agit là de renvoyer toujours la religion d'une partie de la population, l'islam dans ce cas présent, à la figure. Donc il y a ce que les psychiatres appelleraient une injonction contradictoire de l'État vis-à-vis des pseudo-représentations. Troisièmement, je vais être court, et là, je reprends l'exemple que vous donniez, c'est qu'en effet, lorsqu'on regarde aujourd'hui les mécanismes de radicalisation de l'islam, car au fond, toute cette redécouverte de la laïcité, tous ces discours sur la laïcité, viennent en effet, depuis 30 ans, de contextes ou d'affaires liées, dans le cas présent, à l'islam, et en particulier 1989, c'est l'affaire du vol de Creil, qui fut instrumentalisée par l'UOIF. Je rappelle que de jeunes filles avaient accepté de retirer leur voile et deux membres de l'UOIF sont venus convaincre la famille et donc ces jeunes filles de porter de nouveau le voile pour créer un effet de publicité à l'égard de cet organisme. À partir de là, évidemment, la laïcité va devenir un thème important, un thème majeur, et un thème, hélas, source de confusion dans le débat politique. Or, comme vous l'avez dit, si l'on regarde aujourd'hui les raisons de la radicalisation religieuse, il faut inverser le filtre, et je reprendrai l'analyse d'Olivier Roy, car nous avons quand même quelques sociologues en France qui étudient la chose. Il y a bien une radicalisation de l'islam avec une importation de problèmes géopolitiques qui viennent du Proche et Moyen-Orient ou de l'Asie centrale en particulier et qui viennent importer sur notre territoire. Mais ce que recouvre cet islam radical, c'est une radicalité préalable qui va secondairement s'islamiser. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont en rupture par rapport à la famille, par rapport au travail, par rapport à leur religion, qui vont trouver dans ces termes pseudo-révolutionnaires du salafo-djihadisme une manière de dire la violence et le rejet de la société ou du milieu qui est le leur. Et donc, il faut inverser, selon le chiasme d'Olivier Roy, il ne faut pas simplement penser la radicalisation de l'islam, mais l'islamisation de la radicalité. Et ces jeunes, en effet, que cherchent-ils? Pas pour tous. Il y a des leaders qui sont convaincus de la légitimité théocratique des choses. Mais c'est là, effectivement, une courte vue, comme dirait Hannah Arendt. Il faut, en effet, vous le rappeliez, voir que ces jeunes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à donner un sens à leur vie. dans une vacuité existentielle qui est la leur. Ils cherchent une grande cause révolutionnaire, épique, au point qu'Olivier Roy nous dit qu'il trouve là, sur le marché des idéologies révolutionnaires politiques, eh bien ce qu'ils auraient peut-être trouvé à l'extrême gauche dans les années 70. Et regardez un petit peu comment se mettent en scène ces jeunes qui vont aller faire le djihad, qui souvent, effectivement, ne se radicalisent pas forcément dans une mosquée salafiste, mais soit dans cet incubateur carcéral, pour reprendre l'expression de Gilles Kepel, c'est-à-dire en prison, et les frères Kouachi, ou bien par des amis, ou bien par un leader, évidemment par Internet, avec un système d'embrigadement et d'endoctrinement quasi sectaire. Eh bien, ces jeunes-là cherchent un sens à leur vie, un sens révolutionnaire qu'ils ne trouvent plus dans la société dépolitisée, globalement dépolitisée, qui est la nôtre. Certains sont des délinquants, ce sont des paumés. Ce sont des gens qui passent d'un mode de vie de petite délinquance à un mode de vie de grande délinquance, mais avec une différence de degré. Lorsqu'on vit dans la clandestinité, de larcin avec l'usage des armes, et lorsqu'on passe djihadiste, au fond c'est la même chose, mais avec un phénomène d'amplification d'échelle. Sauf que cela se met, est légitimé, par une idéologie salafo-djihadiste. Donc, et autre exemple qui me semble important, et là aussi c'est Olivier Roy qui nous dit cela, pour prendre un petit peu de recul par rapport aux faits religieux, regardez ces jeunes Américains qui vont assassiner dans leurs universités un certain nombre de leurs collègues, se mettre en scène, se filmer, eh bien vous trouvez cette scénarisation exactement également chez des djihadistes. Et dans ce cadre d'exemple nord-américain, vous n'avez pas de cadre religieux. Vous avez vraiment une radicalité, une ultra-violence, un culte nihiliste de la violence qui va jusqu'à l'auto-sacrifice de soi en passant par le sacrifice des autres. Bon. Premièrement. Deuxièmement, ces salafo-djihadistes, ils se réfèrent à quoi ? À un islam qui serait violent par essence ? Non, il y a des islams. L'islam, depuis 632, la mort de Mohamed, a plus de 1700 ans d'histoire. Il se réclame d'une idéologie politisée religieuse, épurée, littéraliste, peu institutionnalisée, déculturalisée, internationalisée grâce au web, grâce à Internet, où chacun, et c'est d'ailleurs le mode de recrutement des gens de Daesh, où chacun peut mettre le message qu'il veut. Donc dans une espèce d'idéologie religieuse et politique protéimorphe, où chacun se retrouve. Et dernier point de cet exemple-là, c'est que les leaders, les imams autoproclamés, les leaders de cette faction-là, eh bien, considèrent naturellement que les islams de la République sont des renégats et ne représentent qu'eux-mêmes des suppôts de l'État français. Alors, vous voyez où je veux en venir. C'est que dans ce contexte-là, quelque louable qu'il soit, que peut faire le discours interreligieux, puisque justement, c'est un discours de rupture radicale avec le religieux traditionnel et avec, de surcroît, des formes institutionnalisées de religieux. C'est donc un paradoxe. Et ce discours religieux qui est souhaitable, mais qui n'est pas la laïcité, de mon point de vue. La laïcité peut s'en nourrir, mais la laïcité, c'est un principe d'organisation juridique et politique de la société qui sépare, évidemment, pas intégralement dans le droit français, vous le rappeliez, il y a tellement de régimes d'exception, de régimes dérogatoires, mais hérités de l'histoire, et nous pensons, pour certains, quand on est en France, qu'il faudrait homogénéiser les choses. Justement. Eh bien, vous voyez comment le discours interreligieux ne répond pas à ce problème-là spécifique, sur cet exemple-là où l'on est, où on semble-t-il, nous sommes très très proches de la religion. Et donc, et finalement, je vous rejoins sur votre conclusion, la conclusion de Jaurès, c'est que défendre la laïcité, c'est en effet appliquer strictement la loi. Mais c'est en effet maintenir la cohésion sociale en évitant de se positionner sur le registre religieux forcément, quand ce sont des problèmes beaucoup plus généraux de la société qui sont liés à quoi ? À une société ultralibérale, de mon point de vue, à une société consumériste, à une société où fleurissent ce que Spinoza appellerait les passions tristes, hein, la concurrence, la compétition, la notoriété, l'onanisme consumériste, et où globalement vous avez une, au bout du compte, une espèce de déspiritualisation, entre guillemets, fut-elle laïque cette spiritualité. La philosophie est une spiritualité laïque, les arts, les sciences sont des spiritualités aussi laïques. Donc il y a globalement une perte de sens général qui amène un certain nombre à se sentir extérieurs à la société qui les a portés. Et donc défendre la laïcité, c'est d'abord défendre une laïcité non adjectivée, non pas une laïcité ouverte, non pas une laïcité du discours interreligieux, c'est d'abord appliquer la loi et homogénéiser les registres de la loi, peut-être en supprimant des statuts dérogatoires, mais c'est dresser un diagnostic global de la société qui doit nous faire comprendre pourquoi certains disent en termes religieux des problèmes qui sont d'ordre politique, socio, économique. Et cela doit être un appel auprès des élus, qui doivent par conséquent ne pas faire de petits accommodements avec les communautés électorales locales, qui ne doivent pas renier la laïcité, là encore, par clientélisme, et qui ne doivent pas forcément poser en termes religieux ceux-là même qui se posent en apparence en des termes religieux, mais qui s'enracinent, ça je pense que nous sommes d'accord, sur des problèmes beaucoup plus vastes. Et l'on comprend pourquoi le politique, parfois, y rechigne. Parce qu'il faudrait changer, de mon point de vue, et la droite et la gauche, qui ne savent plus très bien où elles sont, à l'heure où il y a un affaissement, une indigence intellectuelle et politique globale, qui amène le développement du populisme ou de certaines radicalisations. Il est là, le problème. Et c'est un vaste problème. Et si nous ne le traitons pas, alors, non seulement la laïcité sera attaquée, mais c'est toute la société qui va s'effondrer. Il nous faut donc redonner un sens, une espérance, quelle qu'elle soit, à un certain nombre d'individus qui trouvent ailleurs, dans quelques opiums du peuple, ce qu'ils ne trouvent pas dans la République indivisible, laïque, démocratique et naturellement sociale. Et vraiment pour terminer, effectivement, Laurent Orient a pris des positions plus légales sur le voile, le grand maître l'a dit, le voile à l'université par exemple, qui se défend, qui est discuté. Je vais vous dire que moi, à titre personnel, je ne suis pas d'accord pour interdire le voile à l'université. J'ai enseigné, je préfère parler de la théorie de l'évolution devant des jeunes filles voilées plutôt que de les exclure. C'est à titre personnel. Je suis solidaire du grand maître et du grand Orient de France. Mais pour vous dire qu'il y a quand même des différences de sensibilité. Je suis contre le voile pour des raisons féministes, simplement, parce que c'est le voilement, c'est la relégation de l'espace public, même si, effectivement, ce n'est pas vécu par un certain nombre de femmes comme ça et qui voient dans le voile, et il faut effectivement l'entendre aussi, une ascèse religieuse, c'est vrai. De même que vous le rappeliez, c'est aussi en débat au Grand Orient de France, faut-il étendre, non pas la laïcité, mais la neutralité religieuse dans certaines entreprises, avec des chartes, comme l'entreprise Paprex, par exemple, que nous avons souvent, c'est en débat, certains le pensent, Là, nous n'avons pas encore totalement pris position, mais bon, c'est également discuté. Mais je pense pour ma part véritablement que il nous faut ne pas tomber dans le piège d'un discours exclusivement religieux. La laïcité doit nous permettre à nous de prendre le recul nécessaire pour dresser, je le disais, un diagnostic global de notre société, pour voir quels sont les mécanismes en amont qui amènent certains, quand ce ne sont pas des théocrates confirmés, il y en a aussi, mais qui amènent certains à dire leur rupture en termes religieux. Et corrélativement, nous devons appliquer la laïcité légalement strictement et ne pas, ça je le redis, et c'était un peu l'objet de l'exemple où je me suis appesanti, ne pas confondre le discours interreligieux, louable, souhaitable, avec la laïcité, principe d'organisation, vous le disiez, constitutionnel et juridique de notre République française.